إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل بعون الله تبارك وتعالى ونعمه العظيمة علينا دروسنا فيما يتيسر من التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى فقال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله فصل لربك وانحر وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من لعن أو لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد طيب إذن قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم قال الشيخ الشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وهذا وعيد يدل على أن الذابح لغير الله ملعون واللعن ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد هذا الملعون من رحمته الخاصة سبحانه وتعالى طيب Donc, on poursuit Inch'Allah Ta'ala. Il dit l'auteur, رحمه الله تعالى il dit ou il a dit, yani le prophète alayhi salatu wassalam, donc dans le hadith d'Ali rapporté par Ali radiyallahu anhu, qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit ou m'a rapporté quatre choses, il y a quatre mots, c'est-à-dire quatre choses ici. لعن الله من ذبح لغير الله. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. لعن الله من لعن والديه. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses deux parents. لعن الله من آوى محدثا. Qu'Allah maudisse celui qui héberge, qui protège un criminel. Qu'Allah maudisse celui qui modifie les délimitations de terrain. Yani les propriétés ou les frontières délimitant les terrains. Taïb. Le hadith rapporté par Muslim. Al-Muhim. Le passage du hadith, ici, qui est utilisé par l'auteur pour argumenté dans ce chapitre-là, qui est, je vous le rappelle, ce qui est parvenu au sujet de celui qui sacrifie pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, c'est le début du hadith dans lequel il dit qu'Allah maudisse celui qui sacrifie, yani une bête, pour autre que Allah tabarak wa ta'ala. Donc il dit le shaykh Hafizahullah, ceci est une menace, un avertissement sévère, indiquant que celui qui fait cela, celui qui immole, qui abat une bête, pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est mal'oun, c'est-à-dire il est maudit. Il est maudit. Et qu'est-ce que l'an? L'an, qui est la malédiction? Qu'est-ce que c'est? Al-la'n, c'est le fait d'éloigner, d'exclure de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. Éloigner quelqu'un, de l'exclure, de quoi? De la rahma d'Allah. De la bienveillance particulière, spécifique d'Allah tabarak wa ta'ala. Voyez? Donc, lorsque cette malédiction-là, elle provient d'Allah tabarak wa ta'ala, yani c'est Allah qui maudit, eh bien cela implique le fait que Allah tabarak wa ta'ala, il va expulser, il va exclure, il va éloigner la créature qui est maudite de sa rahma, de la clémence d'Allah, de la bienveillance d'Allah, spécifique et particulière. طيب. وأما رحمته العامة فهي تشمل المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق. وإن كان قوله لعن الله من ذبح لغير الله دعاء عليه باللعن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك داعيا على من ذبح لغير الله جل وعلا باللعن وهو طرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا وهذا يدل على أن الذبح لغير الله من الكبائر ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب وهذا ظاهر من جهة أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعنة وطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. Donc on a dit la personne qui est maudite, elle est rejetée, éloignée, exclue de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala spécifique. Quant à la rahma d'Allah qui est générale, rahmatullah al-amma, La rahma d'Allah tabarak wa ta'ala qui est générale. Cette rahma générale d'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, elle englobe le musulman comme le kafir et le mécréant, et ainsi que toutes les créatures. La rahma d'Allah tabarak wa ta'ala générale, elle englobe toutes les créatures. Tayyib. Donc, revenons maintenant à la parole du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Donc, si on dit que cette phrase du prophète est une dua, une invocation, c'est pour ça que j'ai traduit par qu'Allah maudisse, donc c'est une invocation qui est faite par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a invoqué contre celui qui sacrifie pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, en invoquant à Allah la malédiction sur lui. Voyez? Naam. Donc, on voit dans cette parole-là, c'est comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, disait cela en invoquant contre celui qui sacrifie pour offre qu'Allah tabarak wa ta'ala et en demandant la malédiction sur lui. Et encore une fois, al-la'n, c'est quoi al-la'n? C'est le fait d'éloigner, le fait d'exclure la créature de la rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. Et cela indique une chose qui est le fait de sacrifier pour autre que Allah tabarak wa ta'ala fait partie des péchés majeurs. Fait partie des péchés majeurs. Qu'est-ce qui nous montre cela? Qu'est-ce qui nous indique que le sacrifice pour autre que Allah tabarak wa ta'ala fait partie des péchés majeurs? Eh bien, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala sur celui qui fait cela. Et lorsque tu as au sujet d'un péché, c'est connu que lorsque un des péchés, une des désobéissances à Allah tabarak wa ta'ala est liée à la malédiction, cela te montre que ce péché-là en question fait partie des péchés majeurs. Donc il y a d'autres signes, d'autres choses qui vont te montrer que tel ou tel péché est un péché majeur. Il n'y a pas que la notion de malédiction, mais la notion de malédiction est un des signes qui te montre que ce péché-là, qui est donc sujet à la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala, fait partie des péchés majeurs. Non. Et cela donc est manifeste, yani, en vertu du fait que le sacrifice pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, est du polythéisme, est du shirk, yani, à Allah, de l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala, et dont l'auteur, bien sûr, méritera la malédiction, comme on a dit, l'exclusion, l'expulsion, l'éloignement de quoi? De la rahma d'Allah, de la bienveillance d'Allah tabarak wa ta'ala. Wallamu fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, لعن الله من ذبح لغير الله معناها أن من فعل ذلك من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما فذبح لغير الله تقربا إلى ذلك الغير تعظيما له فهو مستحق للعن وهذا وجه مناسبة هذا الحديث بباب ما جاء في الذبح لغير الله يعني من الوعيد وأنه الشرك وصاحبه ملعون. Donc ici, la lettre lam dans la parole ici du prophète alayhi salatu wassalam, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, cela signifie que celui qui fait cela pour autre qu'Allah, pour se rapprocher d'autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, pour glorifier cette créature, yani, en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Donc, elle a sacrifié pour autre qu'Allah en désirant se rapprocher de cette chose, en la glorifiant. Ainsi, celui qui fait cela, il méritera al-la'an, la malédiction. Voyez? Donc ça, c'est le lien ici entre ce hadith et le chapitre qui, je vous le rappelle, et le chapitre concernant ce qui est parvenu au sujet du sacrifice pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. C'est-à-dire, on a ici al-wa'id, la menace, l'avertissement sévère sur le fait que cette chose, cet acte-là, est de l'associationnisme et que l'auteur, l'auteur de cet acte, il est mal'oun, il est maudit. طيب. فننتقل إلى الحديث الثاني. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. فوجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار وذلك أن ظاهر المعنى يدل على أن من فعله كان مسلما وأنه دخل النار بسبب ما فعل وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها. On passe au hadith suivant. Le hadith suivant, il dit selon Tariq ibn Shihab. Tariq ibn Shihab, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un homme entrera au paradis à cause d'une mouche. Un homme entrera en enfer à cause d'une mouche. Alors les sahaba, ils ont dit, comment ça, ya Rasulullah? Comment cela se fait-il, ô messager d'Allah? Ils n'ont pas compris. Pourquoi? Ces deux hommes-là entreront un en enfer, l'autre au paradis, à cause d'une mouche. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a de répondre, deux hommes ont croisé un peuple, rencontrer un peuple qui avait une idole. Donc ils adoraient en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Et personne n'avait le droit de dépasser l'endroit où était située cette idole sans qu'elle ne sacrifie pour elle quelque chose. Donc personne n'avait le droit de passer, de dépasser l'endroit où était cette idole sans qu'elle fasse un sacrifice pour cette idole. Voyez. Donc, ceux qui adoraient cette idole-là, ont dit à l'un des deux hommes, qarrib, c'est-à-dire, glorifie, rapproche-toi de l'idole en faisant un sacrifice. Donc, il a dit quoi? Le premier homme, il a dit, je n'ai pas de quoi sacrifier, je n'ai rien sur moi. Alors ils lui ont dit, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Et il a fait. Il a sacrifié une mouche pour cette idole. Puis ils l'ont laissé passer. Et il rentrera en enfer. Puis ils ont dit au second, sacrifie. Et il a dit, il ne m'appartiendra jamais de sacrifier quoi que ce soit, à qui que ce soit, autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fadharabu unuqahu. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Fadakhal al-jannah. Et il entrera au paradis. Donc ici, l'argumentation à travers ce hadith, c'est quoi? Eh bien, c'est, cela nous montre que le fait de sacrifier pour cette idole a été une cause pour celui qui l'a fait d'entrer en enfer. Taïeb. Et ce qui est apparent en plus de ce hadith est que celui qui a fait cela était musulman. C'était un musulman. C'était un musulman musulman, mais qui, à cause de cet acte-là, il est sorti, taïeb, de l'islam et il entrera en enfer. Wal'iyadhu billah. Jayyid. Cela nous montre donc une chose, bien sûr, qui est que le sacrifice pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est du shirk akbar, est du polythéisme majeur. Car ce qui est apparent de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, il entrera en enfer, c'est-à-dire il méritera d'entrer en enfer avec ceux qui y seront pour l'éternité. C'est-à-dire, il y sera pour l'éternité. Donc, ça nous montre que c'est du shirk akbar. وفيه وجه آخر للدلالة وهو أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب سببا في دخول النار فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة عند أهله وأغلى أنه سبب أعظم لدخول النار. Puis il dit le cheikh, حفظه الله. Puis on a une autre argumentation à travers ce hadith qui nous montre que si le fait de sacrifier en glorifiant cette idole une chose qui n'a pratiquement aucune valeur, la mouche, et que malgré le fait que cette mouche n'a pas de valeur, c'est quand même une cause qui fait que cette personne-là entrera en enfer, eh bien cela montre que celui qui sacrifie quelque chose qui a une valeur supérieure à cette mouche, qui a une grande valeur auprès des gens, et qui est chère aux yeux des gens, eh bien cela sera une cause qui sera encore plus énorme et plus grave d'entrer en enfer. طيب ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله تبارك وتعالى من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر وحجر وغير ذلك وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله تبارك وتعالى وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. Il dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc, si cette punition, l'entrée en enfer pour l'éternité, concerne celui qui a sacrifié une mouche pour cette idole, que dire alors de ceux qui cherchent les plus grosses, les plus belles bêtes à sacrifier pour ces idoles? Il y en a certains qui vont sacrifier le plus beau chameau qu'ils ont, ou la plus belle vache, ou le plus beau mouton, la plus belle chèvre, pour se rapprocher à travers ce sacrifice de celui ou de celle qu'ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit un défunt, que ce soit quelqu'un qui est qui est vivant, une créature vivante, ou un tarout, une créature adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, une tombe, un mausolée, un arbre, une pierre, peu importe. Voyez. Donc, ces polythéistes, notamment parmi ceux qui sont venus plus tard dans la communauté, certains parmi eux considèrent même ce sacrifice meilleur que l'udhiya. Donc l'udhiya, c'est le sacrifice que l'on fait le jour de Eid al-Adha. Le jour d'Aïd al-Adha, On sacrifie, ça y est, une bête pour Allah tabarak wa ta'ala. Certains parmi eux considèrent que le sacrifice qui est fait pour ces idoles, eh bien, est meilleur que le sacrifice que tu fais pour Allah tabarak wa ta'ala le jour de l'Eid. Taïd, et certains même, il se peut que il ne se suffise que des sacrifices pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Il se peut même qu'il ne sacrifie même pas le jour de l'Eid pour Allah jalla wa ala à cause de leur désir intense, de leur glorification immense, de leur espoir grandiose vis-à-vis de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Taïb, ou certains, peut-être parmi eux, quand ils vont sacrifier pour Allah, ils vont aller chercher la bête la moins chère, comme beaucoup aujourd'hui, malheureusement, ils vont aller chercher la bête la moins chère, quitte à sacrifier, yani, une bête à la limite de la législation, presque malade ou trop maigre pour être sacrifiée, à condition qu'elle soit pas trop chère. Taïb, alors qu'ils ont les moyens pour choisir une belle bête, alors qu'ils ont les moyens, par contre, pour s'acheter une belle voiture, ou pour s'acheter, pour remplir le frigo, ils ont les moyens. Mais pour sacrifier pour Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont aller choisir la bête la moins chère. Peut-être même voir faire des kilomètres pour aller chercher une ferme où ils vont trouver les moutons les moins chers, voyez, ou les agneaux les moins chers. Mais quand ils vont sacrifier pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, ils vont aller chercher la plus belle vache, hein, le plus beau veau, le plus beau chameau, le plus beau mouton, le plus costaud, le plus gros, etc. etc. Voyez, ils ne vont même pas regarder le prix. Allah al-musta'an. Donc ici, ce fléau, yani, a malheureusement, yani, englobé et touché la communauté. Et il y a des choses encore pires que cela. Jayed.
ثم قال الشيخ وقولهم هنا قرب يعني اذبح تقربا والملاحظ هنا في هذا الحديث أنه لم يدل على أنهم أكرهوه على هذا الفعل لأنه قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب وهذا ليس إكراها إذ يمكن أن يقول سأرجع من حيث أتيت ولا يجوز ذلك ولا يجوز ذلك الموضع وتخلص من آذاهم أو من أذاهم فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك فلا يدخل هذا من قوله أو في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لأنه ليس في الحديث دلالة كما هو ظاهر على حصول الإكراه وإنما قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة هل هي أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب أو لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى أنه لا يجوزه حتى يقرب أو يقتل وأن هذا علم بالسياق فصار ذلك نوع إكراه ولهذا استشكل كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. طيب.
Donc ici la parole de ce peuple qui a adoré cette idole, donc il a dit à ces deux hommes, qarrib. Donc qarrib ici, qarrib ça veut dire rapprocher quelque chose de quelque chose. Qarrib. D'accord ? À la base, taqrib,
c'est le fait de rapprocher quelque chose de quelque chose d'autre, ou quelqu'un de quelqu'un d'autre. Donc ici, qarib, il a le sens de ifbah, sacrifie. Il abat une bête pour te rapprocher de la créature pour qui tu as sacrifié. Donc, on remarque certaines choses de ce hadith. Parmi elles, une chose que l'on remarque, c'est que ces gens-là, qui adoraient cette idole, n'ont pas forcé la personne à sacrifier pour cette idole. Ils n'ont pas contrainte à sacrifier. Vous voyez ? Parce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, deux hommes sont passés donc auprès de ce peuple qui avait une idole que personne ne pouvait dépasser sans qu'elle ne sacrifie quelque chose pour elle, pour cette idole. Donc ce qui est apparent du hadith, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yajuzuhu ahadun, personne ne pouvait la dépasser, c'est-à-dire que ces gens-là n'autorisaient à personne de dépasser cette idole-là dans le chemin, hein, de passer le chemin et de passer devant cette idole sans sacrifier quelque chose pour elle. Mais cela ne veut pas dire qu'ils obligeaient les gens à le faire. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils obligeaient les gens à le faire ou qu'ils contraignaient les gens à faire cela. Donc, il nous est possible de dire, donc la personne, lorsqu'elle passe devant et lorsqu'ils lui disent « Tu ne pourras pas passer tant que tu n'auras pas sacrifié pour elle, soit tu sacrifies, d'accord ? Ou soit tu fais demi-tour. » Donc, il était possible à la personne de dire « Non, moi je ne sacrifie pas, je fais demi-tour. Et je reviens là d'où je viens. » D'accord ? Je retourne de là d'où je viens. Donc ça ne rentre pas dans la contrainte. D'accord ? Ne forcez pas. Mais ils interdisaient par contre que l'on dépasse, que l'on passe par ce chemin-là sans faire de sacrifice pour l'idole. Donc soit la personne faisait un sacrifice pour l'idole, donc dans ce cas-là, elle sera tombée dans le shirk, l'akbar, ou soit elle fait demi-tour. Ça y est ? Donc ça ne rentre pas dans la contrainte, dit le cheikh. Non. Donc cela nous montre que la contrainte, effectivement, en vérité, n'existe pas ici. La contrainte réelle, qui est que si tu ne fais pas telle ou telle chose, on te tue. Là, oui, c'est une contrainte réelle. Tu n'as pas le choix. C'est soit tu sacrifies, soit tu es mort. Tu ne peux même pas retourner en arrière et rentrer chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, oui, ça serait une contrainte réelle. Mais là, il n'y a pas de contrainte de l'échir. Ce qui est apparent du hadith, c'est que tu pouvais partir et ne rien faire. Vous voyez ? Et donc, cela ne rentre pas dans la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, dans la sourate An-Nahl, dans le sens du verset où il dit « Excepté celui qui est contraint, mais dont le cœur demeure serein en la foi. » Mais dans le cœur demeure serein en la foi, contrairement à celui qui ouvre délibérément son cœur à la mécréance. Donc ce verset, cette parole d'Allah tabarak wa ta'ala, est une preuve que celui qui est contraint à dire ou faire une parole de mécréance, d'une contrainte réelle, effective, eh bien, tant que son cœur il est rempli de foi et qu'il est serein, par rapport à la foi qu'il a en Allah tabarak wa ta'ala, ce qu'il dit ou ce qu'il va faire, par contrainte, ne sera pas un péché pour elle. Et elle ne sortira pas de l'islam. D'accord ? Tant que son cœur, encore une fois, est serein, demeure serein sur la foi. Vous voyez ? Mais là, ici, il n'y a pas de contrainte ici. Parce qu'encore une fois, comme on a dit, la personne avait le choix de faire demi-tour. D'accord ? Donc, comme elle a le choix de faire demi-tour, si elle accepte malgré tout de sacrifier pour cette idole-là, elle n'aura pas d'excuse devant Allah tabarak wa ta'ala, notamment l'excuse de la contrainte. Car il n'y a dans ce hadith, dit le cheikh, rien qui nous montre, ce qui est apparent, que la personne était contrainte. Car le prophète, il a seulement dit, sallallahu alayhi wa sallam, que deux hommes sont passés auprès de ce peuple qui avait une idole et que personne ne pouvait dépasser sans sacrifier pour elle quelque chose. Na'am. Donc ici la question se pose quand même. Est-ce que l'interdiction de dépasser cette idole, est-ce que c'était une interdiction, soit tu sacrifies, ou soit tu fais demi-tour, ou soit tu sacrifies, soit on te tue. Donc c'est vrai qu'il y a deux interprétations possibles. Il y a deux interprétations quand même, on va dire, acceptables. La première vers laquelle le cheikh il penche, qui est que la personne n'est pas contrainte, donc elle pouvait faire demi-tour. Et la deuxième, qui stipule une contrainte, et qui, donc il ne faudrait comprendre que celui qui ne le fait pas sera tué. Il ne pourra pas faire demi-tour, mais il sera tué. Donc là, oui, c'est vrai, dans ce cas-là, il y a une vraie contrainte. Dans ce cas-là, il y a une vraie contrainte. D'accord ? Non. Certains ulama, certains savants, ont vu qu'il était plus clair que celui qui ne le fait pas se fait tuer systématiquement. D'accord ? Et cela par rapport au hadith, par rapport au fait que le second homme qui a refusé de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a été tué. D'accord ? Donc ils disent que celui qui ne le faisait pas était tué systématiquement, qu'il n'avait pas le choix, et donc il était contraint. Taïeb ? Et donc on comprendrait par cet avis-là, par cette interprétation, cette compréhension de ce hadith, qu'il y avait une forme de contrainte. Naam, réelle. C'est pour ça que certains ulama ont vu ici, se sont heurtés en fait à un problème qui est que la personne, malgré le fait qu'elle ait été contrainte à sacrifier cette mouche pour cette idole, entrera quand même en enfer. Alors qu'on a vu que dans l'islam, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous fait comprendre que celui qui fait un acte de kufr, de shirk, car elle a été contrainte de le faire, d'une vraie contrainte, et que son cœur demeure serein dans la foi, elle ne commettra aucun péché. D'accord ? Donc ils ont vu ici, ils ont eu un problème par rapport à leur compréhension de ce hadith et le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala que l'on connaît. Mais bien sûr, il y a une réponse à ce problème. Une résolution à cette énigme, entre guillemets. قال الشيخ الجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه من عدم إعذار المكره ولو بالقتل كان في شرع من قبلنا كان في شرع من قبلنا وأما رفع الإكراه أو جواز قول كلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ما أجاب به بعض أهل العلم وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعين أنهم هددوه بالقتل فيكون الحديث مجملا فكيف يحمل الحديث على شيء مجمل لم يعين طيب La réponse à ça, c'est quoi ? Donc si on prend l'avis que la personne était contrainte, on a dit, c'était soit tu sacrifies pour l'idole, soit il te tue. Tu ne pouvais pas faire demi-tour et rentrer chez toi. D'accord ? Si on prend cet avis-là, certains ont répondu comment ? Ils ont dit que cela, en fait, concernait une législation précédente à la nôtre. Une législation précédente à la nôtre, yani précédente celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous savez, chaque messager est venu avec, bien sûr, le message du tawhid, avec l'interdiction du shirk, mais il y avait, ou il se peut qu'il y ait des différences dans certaines législations. Par exemple, dans la prière, dans le nombre de prières, dans la façon de prier, dans le jeûne, dans ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est licite et illicite, il se peut qu'il y ait des différences entre la législation de Muhammad, celle de Moussa, celle de Isa, celle de Nuh, alayhi salam. Donc ils disent que, à cette époque-là, de cette histoire que le prophète y raconte, eh bien, la législation était différente de la nôtre. C'est-à-dire que, dans leur législation, il était interdit de faire du shirk, même sous contrainte. Même sous contrainte, il était interdit de faire du shirk. C'est-à-dire que celui qui est sous la menace d'être tué, même là, il n'a pas le droit de faire du shirk. Et s'il le fait, il rentrera en enfer. Donc ça, c'est une des réponses qu'ont rapporté certains ulama. Et que donc, le jugement que l'on connaît, nous, qui est que celui qui est contraint d'une vraie contrainte réelle et effective à faire du shirk ou du kufr, et qui le fait, mais que son cœur, lui, il demeure serein sur la foi, il est excusé auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ce jugement-là, il est spécifique à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un jugement qui est spécifique, particulier, propre à la communauté du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ont répondu donc certains savants. Donc ça, c'est si on prend l'avis que celui qui a fait cela était vraiment contraint. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. D'accord ? Non. Mais si on prend le premier avis, qui est que la personne n'était pas contrainte, en fait, elle pouvait rentrer chez elle. Elle avait le choix, soit de sacrifier et de continuer la route, son chemin, ou soit de rien faire et de rentrer chez elle. Et de ne pas prendre ce chemin-là. Taïeb. Et c'est ce qui nous montre, dit le cheikh, le contexte, parce qu'il n'y a rien dans le hadith, il n'y a rien qui montre que la personne, yani, ne pouvait pas rentrer chez elle et était menacée de mort. À aucun moment, ils ne sont menacés de mort. À aucun moment. D'accord ? Donc le hadith, il est général. Et on ne peut pas rendre quelque chose qui est général de spécifique ou de particulier sans preuve flagrante, hein, ou précise. Taïeb ? فقوله فضربوا عنقه ليس فيه إشكال ولا يرد على من على ما قلناه لأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئا لأنه أهان صنمهم بقوله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم كما سبق وهو بحمد الله ليس بمشكل لأنه إما أن يحمل على أنه في من كان قبلنا فلا وجه إذن لدخول الإكراه أو يحمل على أنهم لم يكرهوه حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله صلى الله عليه وسلم ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. Maintenant, si quelqu'un te dit, mais pourquoi ils ont tué alors le second? Pourquoi ils l'ont tué? Si on prend l'avis qu'il n'y avait pas de contrainte réelle et que la personne pouvait faire demi-tour et rentrer chez elle. Pourquoi à la fin le prophète il nous apprend qu'ils l'ont tué? فَضَرَبُوا عُنُقَهُ. Il dit les chefs, en vérité il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? Et cela ne contredit pas ce que nous disions. Parce que, en vérité, il se peut qu'ils l'aient tué. Donc ils aient tué la personne qui n'a pas voulu sacrifier pour leur idole, pas parce qu'il n'a pas voulu sacrifier, mais surtout parce qu'il a humilié avec sa parole, il a humilié leur idole. Il aurait pu ne rien dire et rentrer chez lui. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ma kuntu liuqarriba li ahadin shay'an dun Allah ». Il ne m'appartient pas de sacrifier quoi que ce soit, pour qui que ce soit, pour autre qu'Allah, tabarak wa ta'ala. Voyez? Donc, ils ont pris cette parole-là comme une offense et un rabaissement, une humiliation vis-à-vis de leurs idoles ou de leur idole. Voyez? Et donc, en vérité, cet acte-là, le fait qu'il ait été tué, pour certains, c'est un problème, yani, par rapport à, on a dit, la question de la contrainte, de la non-contrainte, de l'excuse et de la non-excuse. En vérité, dit les chers, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que soit On dit, on prend donc le deuxième avis, le premier, je ne sais plus, qui dit qu'il n'y a pas de contrainte. D'accord? Il n'y a pas de contrainte, la personne pouvait rentrer chez elle. Jayid. Naam. لأنه إما يحمل على أنه في من كان قبلنا. Naam. Donc, soit on prend l'avis que la personne était contrainte à le faire. Jayid. Et qu'elle a fait cette chose-là. Et que malgré la contrainte, elle entrera en enfer. Parce que, comme on a dit, la législation ou les législations précédentes, celles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont différentes par rapport à elles. Donc il se peut que dans ces législations-là, des autres messagers, la contrainte n'était pas une excuse. Contrairement dans notre législation où la contrainte réelle est une excuse valable. D'accord? Jayid. Ou soit, on dit que non, la personne n'était pas contrainte lorsque ils lui ont demandé ça, mais que malgré ça, ils ont tué cet homme-là qui a refusé de sacrifier. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas voulu sacrifier, ou plutôt parce qu'il a dit en fait cette phrase-là, qu'ils ont pris comme une offense envers leur idole, lorsqu'il a dit « Il ne m'appartiendra pas de sacrifier pour qui que ce soit » quoi que ce soit, pour autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. S'il n'avait pas dit ça, dit le cheikh, s'il n'avait pas dit ça en vérité, s'il avait fait demi-tour, il l'aurait laissé en vie. D'accord? Taïm. Idan, fahad al-bab, huwa qawluhum, babu ma ja fi dhabh li ghayrillah, zahirun fi dalalati ala anna taqarruba li ghayrillah jalla wa ala bi dhabh shirkun bihi, subhana, fi l'ibada. فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. Et pour finir, inshallah ta'ala, donc ce chapitre-là, intitulé chapitre de ce qui est parvenu par rapport au sacrifice pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, ce qui est apparent, c'est qu'il indique que le fait de sacrifier, de se rapprocher d'autre qu'Allah tabarak wa ta'ala à travers le sacrifice, l'immolation, est une association en Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Donc celui qui sacrifie pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala pour se rapprocher de lui ou pour glorifier cette créature, ça sera un mushrik, ça sera un polythéiste de shirk al-akbar. D'accord? Ça sera quelqu'un, un mushrik, qui aura commis du shirk, du polythéisme majeur, al-mukhrij min al-milla, qui fait sortir de la religion, qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillah. Donc, mardi prochain, inshallah ta'ala, on va expliquer les différentes masail, les points les plus importants de ce chapitre-là, inshallah ta'ala. Wa l'ilmu indallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima wa jazakumullahu khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.